Engagé.
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 Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Engagé. Ce podcast vous est présenté par le média ouzbek Erika et la direction Impact d'EDF. Car oui, après 20 ans d'existence, la direction du développement durable d'EDF vient d'être rebaptisée direction Impact. Je ne vous apprendrai rien si vous avez déjà écouté le premier épisode d'Engagé. Les projets d'impact, c'est bien le sujet qui nous intéresse ici. Pour ce nouvel épisode d'Engagé, on a choisi de se pencher sur un sujet à la fois complexe et passionnant. Un débat dans lequel deux visions s'opposent et parfois, nous le verrons, sont finalement complémentaires. Ce débat décisif, c'est low-tech versus high-tech. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, deux invités. Tout d'abord Bruno Gaudron, ingénieur environnement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a porté l'année dernière un projet d'innovation interne low-tech au sein des trophées de l'innovation de la direction transformation d'EDF. Son idée, créer une plateforme pépinière qui rassemble les meilleures pratiques low-tech venues des employés au sein du groupe EDF afin d'acculturer employés et collaborateurs à la culture low-tech. À ses côtés, Damien Giolito, directeur général et cofondateur de Share MySpace, une start-up de cartographie spécialisée dans le repérage des débris spatiaux. Deux visions pour une même question, low-tech versus high-tech, faut-il choisir son camp ? C'est parti pour Engager.
Engager.
Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Bruno Gaudron, vous avez porté un projet low-tech au sein des trophées de l'innovation de la direction transformation d'EDF. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Bonjour, merci pour votre accueil. Ça va déjà, je vais vous donner un petit peu une définition de ce qu'est la low-tech. C'est une démarche qui s'attache à créer des solutions pour répondre à nos besoins fondamentaux de manière sobre, durable et accessible. C'est-à-dire qu'on va regarder les aspects environnementaux, limiter ses impacts sur la planète, les aspects sociaux, faire en sorte que ça puisse se diffuser largement en tenant compte de toutes les particularités locales et ou culturelles. Et on va aussi mettre un accent sur l'aspect technique. Un des enjeux de la low-tech, c'est de remettre l'humain au centre comme acteur de son usage des outils qu'il crée. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de faire les choses de la manière la plus simple possible, la plus conviviale possible, en questionnant systématiquement le besoin. Donc clairement, l'idée de notre innovation, c'est de se greffer à cet élan qui existe déjà dans la société et de voir ce qu'un grand groupe comme EDF peut apporter.
Damien Giolito, bonjour. Vous êtes le directeur général et cofondateur de Share MySpace. Quelles sont vos ambitions avec cette entreprise ?
Voilà, donc nous, à Share MySpace, on répond à un besoin qui est très conjoncturel. Aujourd'hui, on assiste à une multiplication du nombre de lancements de fusées et une très grande prolifération du nombre de satellites. Et de l'autre côté, faire face à 60 ans d'activité spatiale de l'humain qui ont généré des centaines de milliers de débris, dont une grande partie sont dangereux pour l'homme, pour les satellites. Notre objectif, c'est de déployer un réseau de stations d'observation dans le monde, justement pour faire une cartographie très précise de ces débris en orbite et faire en sorte que l'activité spatiale puisse se développer.
On a beaucoup parlé de l'exploration spatiale et de son impact écologique, mais du point de vue de votre démarche, pourquoi est-ce que la high-tech est un outil indispensable ?
Aujourd'hui, la planète Terre, c'est un peu comme une cocotte minute, puisque 10 milliards, 15 milliards d'habitants, beaucoup de traces de tout ce qui a été fait par le passé. Et donc, pour moi, l'espace, c'est une sorte de soupape. C'est quelque chose qui permet de voir une porte de sortie. Et pour aller dans l'espace, eh ben, il n'y a pas trop le choix. Il faut utiliser des technos qui sont lourdes, des technos qui sont complexes. Après, c'est à nous, en tant que responsables de la planète, de rendre cette activité la plus durable possible.
Bruno, j'ai envie de vous demander si, finalement, selon vous, les approches low-tech et high-tech ne pourraient pas être complémentaires.
En fait, je pense qu'elles sont complémentaires, ne serait-ce que parce que la définition de low-tech, est, on n'est pas forcément sur une absence de technologie, mais plutôt sur le juste niveau. Et ce que dit la low-tech, selon moi, c'est ne gâchons pas toutes nos ressources et toutes nos énergies pour des solutions qui ne sont pas fondamentalement utiles ou qui ne sont accessibles et comprises que pour une minorité privilégiée de la planète. Donc effectivement, la conquête spatiale peut être un objectif prioritaire de l'humanité et dans lequel on va mettre de la technologie. Par contre, quand il s'agit de manger, de se chauffer, de se nourrir, de trier ses déchets, on peut peut-être se dire que la surenchère technologique et consumériste peut poser problème. Donc au final, pour moi, c'est deux approches qui sont complémentaires et je dirais même, pour être un peu provoque, que la low-tech, finalement, c'est la high-tech, mais qui arrive à une certaine maturité et qui devient un peu plus raisonnable.
Damien, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que finalement, la low-tech est le futur de la high-tech ?
Je trouve ce que vient de dire Bruno hyper intéressant. Ce que ça met, à mon sens, en évidence, c'est la liberté individuelle versus la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et ça, c'est une liberté individuelle très forte. Tout le monde a une voiture, c'est une liberté individuelle très forte. Et ça, comment revenir en arrière ? C'est très compliqué parce que c'est des libertés qui sont données et qui sont données pour acquises. Et donc, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Mais pour savoir s'arrêter, il faut aussi faire comprendre que ce n'est pas forcément limiter les libertés individuelles. Mais pour ça, il faut des volontés politiques et internationales qui soient très fortes.
Bruno, et peut-être pour conclure, comment est-ce que vous imaginez l'avenir technologique dans une alliance low-tech-high-tech ?
Moi, je rejoins ce que dit Damien. Je pense qu'il va falloir faire des choix assez forts et le plus tranchés possible et que ce soit des choix collectifs. Et effectivement, Damien a souligné un point important, c'est que quelle que soit la direction dans laquelle on veut aller, il va falloir que ce soit systémique. Ça ne peut pas être que technologique, que économique, que social. C'est tout ça en même temps. Et moi, je crois que la solution numéro une, c'est la sobriété et que cette sobriété, on doit la définir ensemble de manière systémique. Et il faut surtout qu'elle soit désirable. Il ne faut pas qu'effectivement ce soit des conflits. Il ne faut pas que ce soit des restrictions, il ne faut pas que ce soit un retour en arrière. Il faut que ce soit un futur, effectivement, qu'on désire. Et je suis persuadé qu'on peut être très heureux dans la sobriété et qu'on peut aussi aller dans l'espace avec un petit peu plus un peu de sobriété aussi sur notre planète. Et voilà, il faut réussir à concilier tout ça.
Engagé.
Alors, comment est-ce qu'on y parvient à ce changement rassembleur et de grande échelle ? Eh bien, peut-être en donnant à la jeunesse un espace où s'exprimer sur le sujet. Cette année, les entreprises pour l'environnement ont organisé le prix Jeunes pour l'environnement 2022, dans lequel EDF était engagé. Et la thématique de ce prix, vous l'aurez deviné, c'était « Du low-tech au high-tech, quelle technologie pour réussir la transition écologique ?» C'est ce qu'a voulu faire l'Association française des entreprises pour l'environnement cette année. Je laisse d'abord Claire Tutenuit, déléguée générale de l'association, nous décrire sa mission.
Engagé.
Tout fait sens.
Les grandes entreprises membres d'EPE sont des entreprises industrielles dont la technologie a finalement fait l'activité, le développement, la fortune et qui, quand il y a un problème, ont souvent recours à des solutions technologiques, du progrès technique, etc. Or, aujourd'hui, cette démarche trouve une limite qui est la limite de capacité planétaire. On ne peut pas remplacer tous les carburants par des biocarburants parce qu'il n'y a pas assez de terre. On ne peut pas remplacer toute l'électricité d'origine thermique par des photovoltaïques parce qu'il y a un problème de sol, on ne sait pas en mettre partout. Et donc, on a besoin aussi de sobriété. Et la sobriété, c'est une démarche donc qui n'est pas très courante dans le monde de l'entreprise, mais dont on a besoin de toute la société. Les entreprises toutes seules ne feront pas la transition.
Ce prix Jeunes pour l'environnement, c'était donc l'occasion pour Claire Tutenuit et les membres du jury de découvrir les projets d'étudiants, de jeunes diplômés et de jeunes actifs de moins de 30 ans. Parmi les membres du jury, il y avait aussi Aude Winsrich, directrice de la stratégie de la direction innovation du groupe EDF, avec qui j'ai pu discuter au lendemain de la finale du prix et de l'annonce des résultats.
Hier, j'ai été particulièrement frappée par des jeunes extrêmement impliqués et qui ont tous, je trouve, sur les quatre finalistes, les quatre projets finalistes qu'on a pu voir, je trouve qu'ils avaient tous ce juste niveau de technologie, justement, pour pouvoir répondre aux besoins qu'ils avaient ciblés. Le projet qui est arrivé premier parmi ces finalistes, c'est un projet, justement, d'intelligence artificielle qui va aider à la détection précoce des feux de forêt, mais en utilisant ce juste niveau de technologie, à la fois dans les caméras qui vont permettre de capter les images, que dans la façon dont ils ont développé tous leurs modèles et la façon dont ils vont gérer leur projet. Et les trois autres projets étaient vraiment incroyables aussi parce que chaque fois, ils avaient dosé, à mon sens, le juste niveau de technologie pour répondre à la problématique qu'ils adressaient.
J'ai voulu demander à Aude Winsrich quel impact avait eu sur elle cette parole émanant des jeunes générations, celles de moins de 30 ans, que l'on peine à entendre parfois dans le débat public.
Bah, je pense que là, c'était des personnes qui étaient hyper impliquées dans leur sujet, qui étaient super motivées, qui étaient passionnées. Ça peut manquer parfois, je trouve, aujourd'hui, dans le débat public, dans les entreprises, on va retrouver quand même des collectifs aussi ou des personnes qui sont super impliquées. Mais moi, ça m'a redonné beaucoup d'optimisme de voir des jeunes comme ça qui s'impliquent autant pour la cause environnementale, tout en conservant en fait cette technologie, en se disant « je vais l'utiliser à bon escient ». Et voilà, je trouve que c'est une parole qu'on devrait écouter encore plus.
Écouter cette jeunesse qui sait utiliser la technologie à bon escient, faire de la place pour cette parole, trouver l'équilibre. Finalement, c'est un consensus qui se confirme entre low-tech et high-tech, deux faces d'une même pièce, qu'il s'agit désormais de concilier concrètement pour répondre à l'urgence climatique.
Engagé.
Et voilà, Engagé épisode 2, c'est déjà fini. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, mais sachez dès à présent qu'une journée low-tech sera organisée à la rentrée, au mois d'octobre, au sein du groupe EDF. Ce sera l'occasion de mieux comprendre la démarche low-tech, d'entendre les messages d'acteurs du mouvement à destination d'EDF et de réfléchir aux manières d'y répondre. Un beau et riche programme en perspective et surtout un endroit où mettre en action les idées abordées avec nos invités aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Engagé.
Engagé.
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 Engagé.